Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croise une histoire individuelle et une histoire collective. Et c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Colette Poggi. Bonjour Colette Poggi.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Colette Poggi, vous êtes philosophe, spécialiste de la pensée indienne, sanskritiste. Mm-hmm. Ça veut dire que vous parlez et vous lisez, vous écrivez le sanskrit.
Alors, le sanskrit, c'est la langue la plus ancienne des langues indo-européennes. Et en fait, cette passion pour le sanskrit m'est venue des premiers cours de yoga que j'ai pris lorsque j'étais toute jeune, l'année du bac pratiquement. Et donc, en effet, je me suis consacrée finalement à la découverte du sanskrit, tout d'abord à la fac, et puis à Aix-en-Provence, puisque j'habitais Marseille à l'époque. Et puis, j'ai vite compris qu'il me fallait aller plus loin et travailler directement sur les textes. Donc, je suis allée à la rencontre de maîtres indiens. Alors, je peux parler le sanskrit, je le lis, je l'écris, je crée des phrases avec des élèves aussi. Et c'est vraiment une grande joie de retourner aux sources phoniques des sons et des sens du sanskrit.
C'est notre langue mère.
Alors, il y a 30 ou 40 ans, quand j'étais étudiante, on disait que c'était la langue mère des langues indo-européennes. Et aujourd'hui, on est un peu plus prudent et on dit que c'est la sœur aînée parce qu'on ignore si c'est vraiment la plus ancienne. Voilà.
Alors Colette Poggi, vous avez choisi comme journée particulière un jour de juin 1979. Ce jour-là, vous montiez à Paris pour suivre justement un cours en sanskrit sur un des textes fondateurs de la culture indienne, la Bhagavad Gita. Poggi, je vous vois hocher de la tête. Mm-hmm. C'est-à-dire, vous comprenez là ce que...
Oui, tout à fait. Oui. Ce sont les premières paroles de la Bhagavad Gita, Dharma Kshetre, dans le champ du Dharma, c'est-à-dire de l'ordre cosmique, de l'univers en fait, de cette orchestration infinie qui sans cesse se renouvelle. Kshetra, c'est le champ vraiment que l'on cultive. Et donc, c'est vraiment l'entrée dans un texte sacré qui, évidemment, appartient à une épopée. Mais ce texte-là n'est pas épique. Il est dans la trame de l'épopée, mais il est vraiment spirituel. C'est un texte vraiment considéré comme un joyau. Et le second terme, c'est « Kurukshetre », dans le champ des Kurus. Là, c'est plus géographique. Et c'est aussi un mot-clé, pourrait dire, de la Bhagavad Gita, puisque pour les sanskritistes, Kuru n'est pas simplement un souverain, mais c'est l'impératif deuxième personne du verbe faire, c'est agir. Hein, donc il y a quelque chose de crypté là-dedans, un mystère
dont on va parler pendant cette heure de radio. Colette Poggi, vous aviez quel âge en 79 quand vous montez justement à Paris pour suivre ce premier cours en sanskrit sur ce texte fondateur de la pensée indienne, la Bhagavad Gita? Vous aviez quel âge?
Alors, à ce moment-là, j'ai 24 ans.
Alors, on vous avait dit qu'à Paris, il y avait un maître indien qui parlait le sanskrit,
oui,
et qui enseignait le sanskrit comme une langue vivante. C'est pour ça que vous décidez de venir à Paris, Colette
Poggi. Donc, c'était des années de vie étudiante, donc on n'était pas très argenté. C'était un petit peu un défi, mais ni une ni deux, j'ai pris un abonnement de train. À l'époque, c'était bien moins cher, mais il n'y avait pas le TGV à l'époque.
Parce que vous habitiez Marseille.
J'habitais Marseille, et donc je partais le jeudi soir. Et je revenais le vendredi soir.
Et vous passiez de nuit dans les wagons
oui.
collectifs,
oui, oui,
couchettes assises.
Alors je cherchais un wagon libre parce qu'il y en avait pas mal. Bon, j'ai eu quelques petites mésaventures, mais c'est pas trop grave, je dois dire. Je m'en suis très bien sortie. Mais toute la semaine était, pour ainsi dire, orientée, mis à part les cours à la fac évidemment, vers cette aventure et puis surtout le bonheur de cette rencontre avec ce professeur et quelques élèves qui étaient là. Et c'était très amusant, ce professeur étant indien. Certains élèves lui amenaient, comme on fait en Inde, ce qu'on appelle le prasad, c'est-à-dire un peu de riz au curry, un petit dessert à l'indienne. Et c'était vraiment, je me suis retrouvée, c'est un petit appartement, vraiment dans une atmosphère toute indienne.
Et vous étiez la seule française ou non, il y avait d'autres élèves français?
Non, je n'étais pas la seule française, non, pas du tout. Mais le climat était vraiment indien. Hein. Il y avait des parfums de jasmin, il y avait de la musique indienne, oui, tout à fait.
De l'encens?
Un petit peu d'encens, pas trop.
Alors, en deux mots, parce qu'on va y revenir, Colette Poggi, donc la Bhagavad Gita, c'est un texte sacré, c'est un texte clé de l'hindouisme. On le date de quand, ce texte?
Alors, il est très difficile de dater les textes indiens, parce que d'abord, le temps n'a pas la même valeur qu'en Occident, il n'y a pas le même souci d'historicité. Mais on le date à peu près entre le 4e siècle avant et le premier siècle, disons, de notre ère.
Alors, ce qui est important de dire pour commencer cette émission, c'est que ce texte peut être aussi lu comme un texte d'actualité, un texte au présent, parce que c'est un texte qui pose la question de comment agir quand on est plongé dans le chaos, ce qui pourrait un peu résonner, hein, ce qui résonne avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais Colette Poggi, après les cours, vous profitiez d'être venue à Paris de Marseille pour aller voir tous les concerts ou les spectacles auxquels vous pouviez avoir accès gratuitement ou pas cher en tout cas.
Tout à fait. Dès que j'arrivais à Paris, j'achetais le Pariscope et j'avais une soif de concerts, par exemple dans les conservatoires ou dans des églises, des concerts à entrée libre, mais aussi de ballets. Par exemple, au Châtelet, à l'Opéra Garnier, des musées comme le musée Marmottan, le musée Guimet, évidemment, qui était mon lieu de prédilection.
Bien sûr. Alors, en 1979, il se trouve que Maurice Béjart montait le Boléro de Ravel à l'Opéra Garnier. Et je crois, Colette Poggi, que vous y avez assisté.
Absolument.
Du haut du poulailler. On écoute Maurice Béjart.
Maurice Béjart, il y a un mot qui est très important pour vous, c'est Moudra. Beaucoup de gens font une mauvaise traduction et pense que ça veut dire école.
Ben, mudra, c'est un mot sanskrit qui veut dire geste.
Et plus que ça même.
Et qui est employé techniquement pour les positions de mains et de gestes de la danse sacrée hindoue. Donc dans le Bharatanatyam, qui est la danse sacrée de l'Inde, on utilise des mudras qui sont des mouvements de mains qui sont très, très précis, qui ont une signification. Et pour moi, je le prends un peu dans le sens plus général, dans le sens de geste. Et dans le sens où tout geste comporte une certaine part de sacré.
Colette Poggi, que répondez-vous à Maurice Béjart? Tout geste comporte une
tout
du
geste,
sacré.
En effet, en fait, le mot mudra est un mot à plusieurs sens. Et Maurice Béjart a tout à fait raison. C'est un geste, c'est une attitude. Mais quand on va un petit peu plus loin, mudra, c'est aussi un sceau. C'est-à-dire comme on peut sceller une lettre, et du coup on dit que cette attitude des mains qui sont dans une position particulière et qui produisent des ondes de forme finalement, où on peut évidemment étendre cette notion au corps, c'est l'idée de sceller une énergie dans le corps. C'est comme si nous devenions des paraboles qui captent des ondes particulières, comme à la radio, hein. Quand nous formons un mudra, nous captons une sorte de vibration.
Alors, il faut dire aussi, Colette Poggi, vous faisiez déjà du yoga en 1979, alors que vous aviez 24 ans, mais vous faisiez aussi de la danse à cette époque. Et sans cette expérience du souffle et du corps, vous n'auriez certainement pas eu le même accès à ces textes anciens et entre autres à la Bhagavad Gita.
Tout à fait. C'est vrai que j'ai commencé la danse à 14 ans, un peu tard, mais c'était de la danse contemporaine. Et si vous voulez, ça m'a tout de suite mis en résonance avec la musique et j'ai tout de suite senti cette onde en moi qui libérait peut-être des émotions ou des mémoires. Et pour moi, évidemment, comme le dit Maurice Béjart, la danse est sacrée.
Alors Colette Poggi, en juin 1979, donc vous avez décidé de revenir chaque semaine à Paris pour suivre ces cours. Entre deux trains de nuit, vous faisiez une plongée dans la Bhagavad Gita, comme une plongée hors du temps. Mais en 1979, le Walkman existait déjà et sur le vôtre, vous écoutiez Georges Brassens.
Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose pour se désennuyer un peu, il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Cette saison, c'est toi ma belle qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. C'est pas vilain, les fleurs d'automne, et tous les poètes l'ont dit. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Viens encore, viens ma favorite, descendons ensemble au jardin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Je sais par cœur toutes tes grâces et pour me les faire oublier, il faudra que Saturne en fasse des tours d'horloge de sablier. Et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller.
Colette Poggi, Georges Brassens a bercé votre jeunesse.
Absolument, ma jeunesse et toujours d'ailleurs, j'ai écouté mille et une fois Georges Brassens, je connais presque par cœur ses chansons, dont celle-ci qui est magnifique.
Alors c'est votre journée particulière Colette Poggi sur France Inter jusqu'à 15h, donc c'est en juin 1979 que vous montez à Paris pour suivre votre premier cours en sanskrit sur la Bhagavad Gita, texte fondateur de la pensée indienne et de l'hindouisme. La Bhagavad Gita fait partie de l'épopée du Mahabharata.
Tout à fait.
Alors le Mahabharata, c'est un des livres les plus anciens de l'humanité. On dit aussi que c'est le plus grand poème jamais composé.
C'est certain, oui. Il a des centaines de milliers de sens. Je pense qu'en effet, il est immense. Hein. Il s'est construit aussi peu à peu. Traditionnellement, il est l'œuvre d'un sage, d'un savant qui s'appelle un pandit, Vyasa, qui a exigé que quelqu'un puisse, comme scribe, prendre le texte sans discontinuer. Et c'est Ganesh, justement, le dieu éléphant, qui s'est proposé et qui, au milieu de l'écriture, si vous voulez, son stylet s'est brisé. Et donc, pour justement ne pas interrompre l'écriture, il a pris une de ses défenses. Donc, je trouve que ça veut dire beaucoup aussi pour celui qui écrit, car il écrit avec son corps, hein, justement.
Alors nous, on va continuer avec notre Bhagavad Gita, donc, qui est un texte, quelques chapitres au cœur donc, du Mahabharata. Ce texte raconte l'histoire d'une bataille entre deux clans rivaux, un conflit fratricide dont l'enjeu est le pouvoir. Alors, que raconte cette histoire, Colette Poggi? On a un héros valeureux combattant qui est Arjuna. Et qu'est-ce qui lui arrive à Arjuna sur le champ de bataille?
Arjuna, c'est un terme sanskrit qui veut dire brillant, lumineux, irradiant. Et c'est le plus valeureux des archers. Hein. Il a conquis vraiment des milliers et milliers de combats. Et la Bhagavad Gita commence donc sur ce récit qui est fait par un cocher à un roi aveugle, hein, qui, donc c'est comme un emboîtement de récit, et ce roi aveugle demande à son cocher et ami, que se passe-t-il? Donc on voit, on entend, comme on vient de le faire, des rumeurs, des fracas, l'armée se prépare, et à ce moment-là, Arjuna, qui est le chef de l'armée des Pandavas, demande à son cocher Krishna, donc la descente du dieu Vishnu, hein, de l'amener au milieu du champ de bataille. Et là, donc, on découvre un déplacement qui est extrêmement significatif, c'est-à-dire qu'au lieu de rester dans son camp, hein, comme dans un conflit, on ne voit que sa propre vision, le héros vient au milieu, et à ce moment-là, il sait, mais pourtant il voit en face de lui des parents, des anciens maîtres, et il s'effondre.
C'est-à-dire qu'au milieu du combat, il s'effondre, il ne peut pas combattre.
C'était avant le combat. C'est juste avant le combat.
C'est juste avant le combat.
Il veut voir, c'est-à-dire qu'il veut faire l'expérience, c'est un mot vraiment fondamental de la pensée indienne. Il ne suffit pas de savoir, il faut vivre. Et lorsqu'il voit en face de lui ses oncles, ses cousins, etc., son archer Gandiva, qui est extrêmement célèbre, tombe à terre, il se met à frissonner, il perd tous ses moyens et il refuse de combattre.
Arjuna dit : voici, ô Krishna, que tous les hommes de ma parenté s'avancent, avides d'une lutte fratricide. À ce spectacle, mes membres défaillent, ma bouche se sèche. Mon corps frissonne et tous mes poils se dressent. Gandiva tombe de ma main et ma chair devient brûlante. Je ne puis demeurer en place, mon esprit se trouble, je n'envisage que présages funestes. Quel bien me promettrais-je à frapper les miens dans la bataille? À pareil prix, je n'aspire, ô Krishna, ni à la victoire, ni à la royauté, ni au plaisir.
C'est un extrait de la Bhagavad Gita, Colette Poggi, lu par François Chaumette de la Comédie Française. C'est donc le début du texte. Et là, ce qui va se passer, c'est que son cocher, donc Krishna, va lui parler.
D'accord. Son cocher, alors le cocher Suta, c'est celui en sanskrit qui incite, qui vivifie. Et celui qui justement conduit le char, donc il y a aussi, qui fait usage d'un discernement perpétuel. Et ce que lui dit Krishna, c'est que il doit agir parce que les circonstances l'exigent. Il ne s'agit pas de baisser les bras, de baisser les yeux, de renoncer, parce que sinon, ce n'est pas simplement le pouvoir et la justice d'un souverain qui est en jeu. Hein, c'est en fait, l'ordre du monde,
le dharma.
Total, le dharma donc qui est l'orchestration universelle, la loi du bon ordre des choses. Et cela nous dit aussi à nous, hein, aujourd'hui, que si on n'accomplit pas ce qui nous est destiné, en fait, eh bien, cela va déséquilibrer, un peu comme dans une architecture, hein, si l'on enlève une cloison importante, tout l'édifice s'écroule. Et là, c'est un petit peu l'effet papillon. Hein, si on n'accomplit pas son propre destin, ce qu'on va appeler le Svadharma, sva, c'est soi, c'est-à-dire ce, notre propre vocation, ce pourquoi, en fait, le monde, l'univers, la vie nous a destinés, eh bien, il y aura une sorte de désordre, de chaos qui va petit à petit prendre place.
Alors, Krishna, donc le cocher de ce valeureux combattant, lui dit qu'il faut agir. Et il y a une très jolie histoire que vous racontez dans votre livre sur la Bhagavad Gita, sur le fait qu'il faille agir, qu'il faut agir. Quoi qu'il en coûte, il faut agir. Oui. Vous pouvez nous la raconter, c'est une histoire de grenouille.
Il faut bien agrémenter parfois les choses un peu tragiques par des clins d'œil. Et donc, on raconte en Inde, mais je pense que c'est une histoire aussi qui peut être propre à d'autres civilisations, qu'un jour, dans une jatte de lait très appétissante, deux grenouilles ont plongé. Elles s'ébattent, elles nagent, elles savourent, et puis au bout d'un moment, elles veulent sortir. Et dans cet océan de lait, pour elles, qui pourrait être l'océan du samsara, c'est-à-dire de la vie, hein, des transmigrations, eh bien, l'une d'elles commence, puis l'autre, et puis elle voit que les bords sont glissants, et que finalement, elle retombe sans cesse dans la jarre. L'une dit « C'en est fini de nous, nous allons nous noyer, laissons-nous sombrer ». Et l'autre dit « Jamais, jamais, je continuerai jusqu'au bout ». Et elle se débat si bien qu'elle barate le lait qui devient du beurre. Et du coup, elle prend appui sur le beurre et s'enfuit. Et j'espère que l'autre aussi.
Voilà. On ne le sait pas. Ouais. Ça, ce qui veut dire qu'il ne faut jamais renoncer extrême. On peut encore penser à aujourd'hui. Il faut se relever, continuer d'agir pour les idéaux. Auxquels nous croyons.
Voilà, pour les idéaux, et aussi dans le sens de la vie, ne pas s'avouer vaincu, hein, ne pas être défaitiste. Voilà. Mais Mandela, hein, Nelson Mandela, Vandana Shiva, tous ces grands Gandhi également, même quand les situations semblaient désespérées, ont souvent, grâce à la Bhagavad Gita d'ailleurs, ont eu recours justement à cette philosophie de l'action, puisque l'homme est fait pour agir.
Alors, mais il ne s'agit pas d'agir de n'importe comment. Il s'agit d'agir de façon juste. Et ce texte, donc, de la Bhagavad Gita nous enseigne, c'est une réflexion sur l'action et nous enseigne qu'il faut agir avec un des yogas les plus simples. C'est-à-dire avec le geste juste. C'est ce que Krishna enseigne à Arjuna. Le geste juste, désintéressé.
Voilà, le geste absolument délivré de ce fardeau du moi qui engonce, qui est comme une carapace, qui est comme une succession de cuirasses, essayer d'agir libre de ce moi, hein, et aussi de tous nos préjugés, c'est-à-dire de toutes les normes, parfois, ce que la société, la culture, certains régimes peuvent surimposer, justement, et il y a en nous, dans cette vision du corps indienne qui est extrêmement féconde et qui est extrêmement, comment dire, vivante et vivifiante, il y a en nous plusieurs dimensions. Hein, il y a le corps, l'énergie, la pensée avec le conscient et l'inconscient. Mais plus profondément encore, il y a le corps que l'on appelle le corps d'intuition. C'est un corps d'éveil, c'est-à-dire il y a en nous quelque chose qui sait, puisque nous sommes tissés dans la vie cosmique, dans le réel. Or, quand notre peau se renouvelle d'elle-même, nos cellules, les cellules de tous nos organes ont un programme, hein, ils savent comme dans un orchestre quelle partition jouer, à quel rythme, eh bien en nous, dans notre esprit, dans notre conscience, il y a quelque chose de fondamental qui est souvent parasité, justement par l'éducation, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'éducation, mais qu'il faut avoir ce discernement et cette profondeur heureuse dont parlent certains pour parfois nous reconnecter. Et c'est justement la grande valeur du yoga ou d'autres techniques de ce type. Et le karma yoga, justement, c'est le yoga de l'action, une action fluide, une action libre de moi, hein, d'orgueil, d'égocentrisme.
Laissez-vous détendre complètement comme une serpillière mouillée, rentrez dans le sol. On essaye d'établir une forme de courant continu, une respiration calme, comme un bruit de vagues sur une plage par beau temps, un sac et ressac extrêmement lent, berçant. Inspirez à fond, allez, hop, montez, 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 dépliez, 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 tendez bien. Je m'appelle Eva Rushpol.
Et j'appartiens à cette catégorie de gens un peu bizarres, pas tellement nombreux, qui pratiquent en Europe le Hatha Yoga. Yoga, ça veut dire joindre, du vieux mot sanskrit qui a donné en français le joug des deux bœufs qu'on joint ensemble. Mais pour nous, d'une façon plus proche, on pourrait dire que joindre, ça veut aussi dire réconcilier, se réconcilier avec soi-même et se réconcilier avec ce qui nous entoure. C'est un peu un art de vivre. Comment est-ce que des gestes peuvent vous amener à vous trouver heureux, disons le mot, plus intelligent?
Colette Poggi, là il s'agit du yoga de posture, hein, et ce dont parle la Bhagavad Gita, ce n'est pas ce yoga-là, ce n'est pas le yoga des postures, c'est un yoga comme un art d'agir.
Voilà, c'est-à-dire que le karma yoga, c'est-à-dire le yoga de l'action, hein, l'art d'agir, évidemment innerve le hatha yoga, innerve toutes les sortes de yoga, hein, le yoga du mantra, etc. Et on pourrait dire que cette manière d'agir donc désintéressée et ouverte, hein, en résonance avec le monde, avec les autres, devrait innerver, en fait, irriguer tous nos moments, tous les moments de notre vie.
Toutes nos actions.
Tout notre art.
Tout notre art de vivre.
Tout absolu.
Et c'est ça que dit la Bhagavad Gita. Oui. Colette Poggi, vous acceptez de nous lire en sanskrit ce passage, justement, où Krishna parle à Arjuna du geste juste.
Tout à fait. Donc, c'est dans le passage du chapitre 2, 47-48. Karmani eva adhikaraste ma faleshu kadachana. Ma karma falahiturbur, ma te sangustva karmani. Yogastaha kuru karmani, sangam chaktva tananjaya. Sidya sidyoho samobudva samatvam yuchate. Alors la traduction c'est, le Bhagavan, Krishna parla ainsi, quand tu agis, sois seulement attentif à l'acte que tu accomplis. Ne pense pas aux fruits qu'il portera. Et ne crois surtout pas que l'inaction soit meilleure que l'action. Il faut agir, bien relié à son essence, établi en cette jonction suprême, délié de tout attachement, sans souci du succès comme de l'échec. Car le yoga, plus que tout, est égalité d'âme.
Me
Colette Poggi, j'espère que vous nous excuserez parce que nous sommes en train d'écouter de la musique du Punjab.
Et magnifique.
C'est magnifique, mais on se disait que ça pouvait être un contresens, mais on ne voulait pas se priver de cette musique. Pas de problème.
Elle est très rythmée et c'est tout à fait indien.
Très bien, bah merci beaucoup Colette. Donc jusqu'à 15h, on est avec vous. Colette Poggi, vous êtes philosophe, indianiste et sanskritiste. On vient de vous entendre lire du sanskrit. En juin 79, vous commenciez à étudier l'épopée de la Bhagavad Gita, texte fondateur de la pensée indienne et de l'hindouisme, texte sanskrit qui a été écrit entre le 5e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, mais qui résonne avec ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour ça que vous avez tenu à publier ce commentaire et cette analyse de ce texte. La Bhagavad Gita pose la question de comment agir quand on est plongé dans le chaos. Et ce que vous venez de nous expliquer, c'est que Krishna, le cocher du héros valeureux Arjuna, lui enseigne l'art d'agir, l'art du geste juste, la voie de l'action par le détachement, la générosité et le soin porté à autrui.
On pourrait ajouter peut-être sur les forces, on pourrait dire, d'ordre, d'orchestration, d'harmonisation et les forces de chaos, de désagencement, de distorsion, qui sont effectivement toujours présentes même au cœur de chaque cellule, au cœur de l'univers. On sait très bien que les galaxies se créent et se décréent en raison justement d'un germe simplement de chaos, mais aussi dans nos pensées, dans nos corps, dans notre souffle. Et ça, justement, toutes les pratiques, évidemment artistiques, surtout comme la musique, la danse, dans le yoga, dans les arts martiaux, on sent très bien que l'équilibre est l'affaire de chaque instant, que même s'il en a une harmonie à un moment donné, ça ne veut pas dire que ça va continuer. Et donc, ce n'est jamais fini. Et dans tout ordre, dans toute harmonie, il y a un germe de chaos, comme le yin et le yang, et dans tout chaos, heureusement, il y a un germe de puissance, d'énergie, d'harmonie. Et cela résonne absolument avec la conception, je dirais, indienne, à la fois hindoue, bouddhiste, évidemment, de l'interrelation, de l'interdépendance de toutes choses. En fait, toute la réalité cosmique, universelle, est conçue comme un maillage, comme un treillis, qui serait fait de petites perles taillées avec 1000 facettes. Et chacune de ces facettes renvoie à toutes les autres. C'est-à-dire que dans chaque être, dans chaque cellule, en fait, il y a la possibilité d'entrer en contact, en fait, avec tout le monde, tout le reste. On n'est pas des capsules bien étanches, mais nous sommes, maintenant nous le savons, à travers les ondes, les synapses, etc., tout n'est que relation, tout n'est qu'interrelation. S'il n'y a pas cela, il n'y a pas la vie.
Et la Bhagavad Gita parle de ça aussi,
oui,
de cette interrelation. Ce texte, Colette Poggi, a influencé des grandes figures de notre monde, comme Gandhi,
oui,
par exemple, qui s'est inspiré de ce texte pour agir, lui aussi.
Oui. Gandhi disait, par exemple, que lors de ses longs séjours en prison, de ses grèves de la faim, il a parfois succombé aux doutes et au désespoir, à la détresse, au désarroi, comme Arjuna. Mais il ajoutait qu'il avait toujours la Bhagavad Gita avec lui et que jamais, jamais la Bhagavad Gita ne l'a laissé justement dans ce désarroi. Chaque fois qu'il l'ouvrait à n'importe quelle page, eh bien, ça le remettait vraiment dans un élan de combat, de lutte, non pas pour lui-même, mais justement pour... la dignité des autres.
Je vous propose d'écouter la voix de Gandhi. C'est un enregistrement qui date de 1931.
I can see that in the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. Hence I gather that God is life, truth, light. He is love. He is the supreme good.
Je traduis très rapidement. Je remarque qu'au sein de la mort, la vie persiste. Au sein du mensonge, la vérité persiste. Au sein des ténèbres, la lumière persiste. Partant de là, je déduis que Dieu est vie, vérité et lumière. Il est amour, il est le bien suprême.
Ça me fait penser justement, comme nous avons liberté, égalité, fraternité, hein, le mot d'ordre de l'Inde, c'est Satyam Eva Jayate. C'est toujours la vérité qui est vainqueur hein, à la fin.
Alors, le Mahatma Gandhi donc, a été le théoricien de la résistance par la désobéissance civile en Inde. Il a inspiré, lui, à nouveau, de nombreux mouvements de libération et de défense des droits civiques dans le monde. Il a inspiré Martin Luther King,
tout à fait,
qui connaissait aussi la Bhagavad Gita.
Oui, tout à fait.
Et puis Nelson Mandela.
Nelson Mandela, en fait, qui est aussi un juriste, hein, comme l'était d'ailleurs Gandhi. Donc, c'est-à-dire peut-être des personnes fondamentalement intéressées par la justice. Alors, Nelson Mandela, comme on le sait, a passé de très, très longues années, presque 26 ans, je crois, en prison.
Oui, 27.
Et une fois, il était avec un co-détenu d'origine indienne qui connaissait, hein, étant hindou, la Gita pratiquement par cœur et qui lui a transmis le goût de ce texte. Et c'est à partir de ce moment-là que Nelson Mandela a changé de manière de faire et s'est dit que agir de manière pacifique et en transformant les mentalités était certainement la meilleure solution. Et de là, justement, il a agi et bien qu'il ait souvent échoué en raison des contextes, eh bien, il a continué de lutter.
On écoute Nelson Mandela.
Je me tiens ici devant vous, non pas en tant que prophète, mais en tant qu'humble serviteur de vous, le peuple. Votre peine et vos sacrifices héroïques ont rendu possible ma venue ici.
C'était le discours prononcé par Nelson Mandela le 11 février 1990, alors qu'il venait d'être libéré après 27 ans d'emprisonnement devant l'hôtel de ville du Cap. Et on entend dans ce discours, dans cet extrait, l'esprit de la Bhagavad dans les mots qu'il choisit.
Tout à fait. Être de toute façon Bhagavad, qui donne le nom du Seigneur ou du chant du bienheureux, en fait signifie littéralement celui qui se donne en partage. Hein, Bhaga, c'est-à-dire celui qui participe de tout, hein, cette réalité, mais aussi celui qui se donne en partage. Et cette idée de service, Seva, hein, qui a peut-être donné service en français, servir, est vraiment au cœur de des grands philosophes, hein, Vivekananda, enfin des grands philosophes de l'Inde contemporaine également, Sri Aurobindo, etc. Et je voulais ajouter que Nelson Mandela a lutté vraiment pour ce droit à la dignité humaine, hein, inaliénable, et à ce sujet, Obama lui a rendu hommage en disant par exemple que Nelson Mandela se situait aux antipodes du cynisme et du fatalisme qui sont si présents aujourd'hui, hein, et qui affligent notre monde. Donc ça, je crois qu'il faut le garder en mémoire et au niveau individuel, hein, dans notre vie, ne pas céder aux critiques injustifiées, aux pressions, et aussi au niveau de la communauté ou de la société. Hein, vraiment se battre pour des idées, pour des idéaux qui nous sont chers et que justement peut-être notre discernement profond, hein, nous conduit justement à respecter et à faire respecter.
Colette Poggi, il nous reste peu de temps, mais il faut absolument qu'on parle de l'éco-féministe indienne Vandana Shiva, qui se bat aujourd'hui et qui appelle et qui prône la désobéissance créatrice, parce qu'elle s'est elle aussi inspirée et de Gandhi et de la Bhagavad Gita.
Tout à fait. Elle est dans le droit fil aussi de ces grands philosophes américains comme Thoreau et Emerson, hein, qui ont prôné aussi la désobéissance civile. Alors Vandana Shiva, elle a eu d'abord aussi le prix Nobel alternatif, hein, comme Nelson Mandela a eu le prix Nobel de la paix. Alors ça, il faut le signaler aussi, ça donne beaucoup d'espérance, je trouve, de reconnaître ces êtres.
Mais Colette Poggi, je me pose une question, parce que ça soit Gandhi, que ça soit Martin Luther King, que ça soit Nelson Mandela ou la Vandana Shiva, on parle de désobéissance. Est-ce que la Bhagavad Gita, donc ce texte fondateur de l'hindouisme, dont vous êtes une spécialiste, est-ce que ce texte appelle à la désobéissance?
Alors, pas vraiment, puisque en réalité, Arjuna va finalement obéir à son dharma, c'est-à-dire à ce qu'il doit accomplir pour sauver l'ordre du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, il a osé la désobéissance. Il a eu cette audace de faire un pas de côté et de ne pas se battre comme tous, hein, comme il aurait dû le faire. Donc ce moment que l'on appelle en sanskrit pour un petit mot antara, entre comme inter, hein, inter vient de là, inter, intermédiaire, etc. C'est un moment de questionnement, de doute qui est extrêmement salvateur, qu'il faut se permettre. Justement. Et les temps de crise, de remise en question, il ne faut surtout pas les oublier, il faut les considérer, il faut leur accorder toute notre conscience et notre respect.
Donc faire un pas de côté pour prendre conscience de la situation dans laquelle on est, et ensuite agir de façon...
Discerner. Voilà, ça permet le discernement. On voit les choses autrement, même spatialement. Hein, lorsqu'on est d'un côté, on voit l'ennemi en face, tandis que quand on est au milieu, on voit les choses autrement, hein, comme la rivière coule entre les deux rives. Voilà. Et donc Vandana Shiva aussi a fait cela, puisqu'elle était au départ, elle était scientifique, docteur en physique quantique, je crois, et que elle prend conscience justement de ce problème des semences industrielles. Et en 1980, elle commence à arpenter toute l'Inde pour aller auprès de paysans. Elle recueille des germes, des graines, des semences naturelles anciennes. Et dans ce mouvement, finalement, je crois qu'elle revient à son point de départ avec 500 000 personnes qui la suivent. Et elle crée 12 banques de germes et de semences. Donc, elle a été vraiment comme un peu comme Gandhi, hein, tous ces grands Indiens qui ont arpenté l'Inde. Il y a aussi Vivekananda, etc. Et elle dit justement qu'elle s'est nourrie de la sagesse de la Bhagavad Gita et de son art de l'agir, parce que si elle avait agi toujours avec le souci du succès, de la réussite, elle aurait abandonné en disant « on ne veut plus de moi, ma cause est finie », etc. Alors elle dit ceci: jamais je ne me suis permis de succomber au désespoir, car l'urgence de la situation ne le permettait pas. Chacun de nous doit agir selon ses possibilités, hein, un tant soit peu, et sans se laisser impressionner par la tâche gigantesque.
Hein. Donc ça, c'est pour... Là, vous êtes en train d'essayer de nous rassurer, Colette Pouggi.
Mais oui, il faut se rassurer.
Sur ce que nous avons à faire à l'ère de l'anthropocène et du Covid-19.
Absolument. Et comme elle disait, il suffit de devenir ce petit rien qui va agir, cette goutte d'eau, comme pour l'histoire du colibri, hein, qui va éteindre l'incendie, justement en transportant goutte d'eau après goutte d'eau. Chacun de nous est concerné. C'est ce que dit aussi la Gita, finalement.
Mais aussi, agir, c'est s'engager.
Agir, c'est s'engager, absolument. Ça, elle dit, justement, il faut à la fois être plein de passion pour s'engager, plein d'ardeur, et aussi plein de détachement. C'est un juste milieu, et c'est pourquoi le funambule, qui est une des très belles représentations d'Emily Poggi dans ce livre sur la Bhagavad Gita, est intéressant, parce que si l'on n'avance pas, on peut perdre l'équilibre, comme lorsqu'on fait du vélo. Hein, il faut avancer.
Silence is the wildness. Your embrace clears the storm in my head. Why do I love you more when I'm wasted? I only welcome care when I'm wounded. Of brightness, the triumph of life over self-hate, but I take all you gave for granted. What really matters, I keep breaking. I'm turning horizons into battlegrounds. I can't
cannot walk ahead without a guidance. Can I hold on? Can I hold on to you? Can I hold on? Can I hold on to you?
Journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Colette Poggi, vous avez donc choisi comme journée particulière un jour de juin 79. 1979, c'est une année charnière, c'est une année qui a vu à la fois la révolution khoméniste en Iran, l'invasion de l'Afghanistan par l'ex-Union soviétique, et puis le deuxième choc pétrolier, et aussi le grand tournant de la Chine initié par Deng Xiaoping. Mais, vous le savez, Colette Poggi, on n'y coupe pas dans cette émission à parler un peu de musique. En 1979, Michel Sardou chantait « Ils ont le pétrole ». Je sais que vous avez eu très peur que je vous la fasse entendre. Laurent Voulzy chantait « Le cœur grenadine » et Alain Chamfort chantait « Manu Reva ». Colette Poggi, vous l'avez dans les oreilles, cette musique, évidemment. C'est pas Brassens.
Tout le monde a dansé là-dessus, voilà.
Vous avez dansé sur Manu Reva, vous pensez?
Peut-être.
Ah, peut-être.
La nuit en Corse.
Ah oui, parce qu'on n'a pas dit que vous étiez Corse. Ceci dit, entre la Corse et le sanskrit, c'est un bel écart.
C'est un bel écart, mais la Corse aime les racines, les paysages vraiment sauvages. Et là, on a la nuit, on a toute la Voie lactée pour comprendre la Bhagavad Gita.
Alors le 26 juin 1979, Colette Poggi, peut-être vous vous en souvenez, Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, André Glucksmann et Michel Foucault se rendaient à l'Élysée pour demander 3000 visas au président Valéry Giscard d'Estaing pour les réfugiés vietnamiens embarqués sur le bateau L'Île de Lumière.
La réception, chez le président de la République, des animateurs d'un bateau pour le Vietnam, parmi lesquels vous pouvez reconnaître Raymond Aron, Claudie Broyel, André Glucksmann, Jean-Paul Sartre, qui ensuite, dans une conférence de presse, a résumé cet entretien avec le chef de l'État.
Nous avons demandé un pont aérien permettant de ramener le nombre de réfugiés le plus grand qu'on pourrait. Bien sûr, le président, je vous l'ai dit, nous a sérieusement écoutés, mais il n'a que peu d'espoir de convaincre les gouvernements d'Europe d'être plus accueillants.
Colette Poggi, le bateau, l'île de lumière est devenu le symbole de l'humanisme et de la générosité. Vous pensez que Sartre avait lu la Bhagavad Gita ?
Il y a peu de chance, mais pourquoi pas, en bon normalien peut-être, comme Raymond Aron d'ailleurs. Et il est tout à fait étonnant et générateur d'espoir de penser que ces deux ennemis ont pu se réconcilier justement pour agir en faveur de ces centaines de milliers de Cambodgiens, de Vietnamiens aussi, et finalement ont eu un résultat. Donc aujourd'hui, tout espoir n'est pas permis non plus, justement avec tous ces migrants. Et par exemple, il y a énormément d'initiatives individuelles. Je pense à Cédric Héroux, par exemple, dans l'arrière-pays niçois, qui est allé contre finalement la loi, mais qui a suivi justement son Svadharma, comme dirait la Gita, et qui a accueilli des migrants qui passaient par les frontières franco-italiennes.
Parce que c'était dans l'ordre du monde.
Parce que c'était dans l'ordre du monde. Heureusement qu'il y a de la consonance parfois.
Ouais. Alors avant de se quitter, Colette Poggi, un cadeau. Je vous propose d'écouter la voix du grand poète indien Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature en 1913.
Cet après-midi-là me vient à l'esprit. La pluie tombante s'épuisait de temps en temps, puis une brusque rafale la ranimait à nouveau. Il faisait sombre dans la chambre, et ce temps ne donnait pas envie de travailler. Je pris mon instrument et commençai à jouer un air en ragamala, un chant de la saison des pluies. De la pièce à côté, elle vint jusqu'à ma porte, puis repartit. Peu après, elle revint et resta devant la chambre. Enfin, elle entra lentement et s'assit. Elle avait entre les mains un ouvrage de couture. La tête penchée, elle se mit à coudre. Ensuite, elle s'arrêta, regardant par la fenêtre vers les arbres embrouillés. Il cessa de pleuvoir. Mon chant se termina. Elle se leva et s'en alla se coiffer. C'est tout. Rien que cela. Rien que cet unique après-midi-là, enchevêtré dans la pluie, le chant, le farniente et la pénombre. Cela ne fait pas une histoire comptant le destin des rois et des empereurs, des récits de guerre et de conflits. Il y en a tant et tant. Mais un simple petit fragment du conte d'un après-midi qui restera caché comme une précieuse perle dans l'écrin du temps. Deux êtres seulement en connaissent l'existence.
Colette Poggi, vous fermiez les yeux en écoutant ce poème de Rabindranath Tagore.
Rabindranath Tagore est un de mes poètes préférés, on pourrait dire aussi un de mes philosophes, et on ne peut pas oublier qu'il a été aussi un homme de terrain. Il a créé des écoles, des universités, il a beaucoup œuvré. Mais ce qui m'a vraiment touchée dans ce passage exquis, vraiment, c'est ce moment hors du temps, qui est le moment de la rencontre, justement, qui me ramène aussi à ce moment où j'ai rencontré ce maître indien, au moment de la rencontre et du dialogue aussi entre Arjuna et Krishna, qui sont à la fois bien inscrits dans l'histoire, dans le réel, et qui en même temps sont une sorte de percée de la temporalité, de la normose, pour vraiment savourer ce qui est de l'ordre de la poésie, c'est-à-dire de la pure création, c'est-à-dire de l'improvisation et de ce qui donne justement ce goût du toujours nouveau. Comme disait Thoreau aussi, renouvelle-toi chaque jour encore et encore, encore et à jamais. Et la musique justement à laquelle fait allusion Rabindranath Tagore, en Inde est constitué d'une harmonie fondamentale et de sortes de broderies au-dessus. Et cela me fait penser aussi à ce texte magnifique de Rainer Maria Rilke, Note sur la mélodie des choses, où justement pour vivre en accord avec son Svadharma, il faut justement tisser sa mélodie d'instant en instant, toujours nouvelle, de ne pas se contenter de celle que les autres nous imposent, mais en harmonie justement avec la mélodie de l'arrière-fond, comme il dit, la mélodie fondamentale cosmique.
Merci Colette Poggi pour cette rencontre.
Merci, merci également.
Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Votre livre, donc, qui est à la fois une traduction, un commentaire, une réflexion autour de la Bhagavad Gita, ou l'art d'agir, est publié aux éditions des Équateurs. C'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combe, à la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation Flora Bernard, à la technique aujourd'hui Alison Askridzi. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, passez un très bon week-end et agissez juste.